les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois du monde. Céline Wagner, Boris Pratt et Léo.
Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Et effectivement, je reçois du monde et notre invitée, c'est Céline Wagner, auteur de bande dessinée, artiste plasticienne. Boris Pratt, animateur de la Place de la Palabre à Nègrepelisse, et Léo, ancien étudiant de graphisme et actuellement reconverti à l'éco-construction. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Léo, bonjour Boris et Céline. Donc Céline Wagner est une artiste plasticienne, auteur BD. Je ne sais pas s'il faut dire d'abord auteur BD ou artiste plasticienne.
De plus en plus auteur BD.
De plus en plus auteur BD. Tu as grandi à Louvre, que c'est dans la petite ville à la banlieue parisienne. Et tu es venu à la région toulousaine pour continuer tes études de design. Et après, tu as commencé à faire des bandes dessinées, en même temps que la peinture. Et j'ai compris que ta recherche dans les beaux-arts, parce que tu t'es intéressé beaucoup dans les arts plastiques, et c'était pour faire un portrait de la jeunesse qui grandit dans un univers de béton et de publicité. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Résumé.
Enfin, et tu prépares la sortie de ton troisième album, si je ne me trompe pas, ton troisième album,
le premier. Cinquième.
Cinquième, ah, oui. Merci de le rectifier. Et qui s'appelle, ce cinquième album s'appelle
Un héros.
Oui, vas-y.
Un héros de notre temps.
Un héros de notre temps, qu'on va parler à la dernière séquence de notre émission. Et donc, ma première question, et je donne aussi la parole à Boris et à Léo, qui peuvent intervenir à n'importe quel moment, dans cette séquence de ton parcours biographique, non? Et les dessins, je pense qu'arrive d'abord que les couleurs, comment ça se faisait pour toi? Tu t'es intéressé d'abord au collage, à la plastique, ou c'était d'abord les dessins?
Je me suis intéressée d'abord à la peinture, à la plastique, oui, au collage. Et en fait, j'essayais de mettre en rapport des choses qui n'ont a priori pas de rapport. Mais je crois que c'est ce qu'on fait chacun de nous quand on essaye de créer quelque chose. On confronte des perceptions. Donc moi, je mettais en lien le journal, l'actualité, le drame quotidien un petit peu. Et mon dessin malhabile, naïf, parfois enfantin. Et ça crée comme ça une espèce de caractère perdu dans son époque. Et j'ai continué dans cette voie-là, sans préméditation, parce que je crois que dès qu'on commence à maîtriser, les choses nous échappent. Donc je savais pas très bien où ça me mènerait, parce que j'avais conscience que je pouvais pas en faire une recette. J'ai continué comme ça, et puis à force de mettre en rapport le journal et puis des dessins malhabiles, j'ai mis en rapport le texte et le dessin, et progressivement la bande dessinée est apparue, sans que je l'ai décidé au départ. Ça s'est fait avec les rencontres.
Excuse-moi Céline, quand tu parles que tes premières essais ne pouvaient pas faire recette, tu veux dire par là que c'était un dessin qui ne pouvait pas avoir un public, qui ne pouvait pas avoir une réussite dans la science sociale? Qu'est-ce que tu entends par faire recette?
Ce que j'essayais de faire prenait forme dans la difficulté. Ça prenait forme parce que c'était empirique, je maîtrisais pas entièrement le dessin. J'apprenais comme aujourd'hui. Je calculais un petit peu pour remplir l'espace du tableau, pour aborder le tableau, mais je maîtrisais pas. Et ce que j'ai réussi à en tirer, quand j'ai pu en tirer un peu de sensibilité, d'harmonie, si on peut dire, enfin en tout cas quelque chose, ça s'est fait dans la malhabileté. Si je commençais à me dire, oh bah tiens, je vais mettre ce mot-là avec ce dessin-là, C'est ce que j'appelle une recette. Et là, le public est pas dupe, il le voit bien. Et puis moi, je me serais ennuyée. Donc en fait, ce que je cherchais, je lisais les journaux, des choses parfois drôles, des fois déplorables, tristes. Et ça me renvoyait à mon inexpérience, et je me disais mais le monde est tellement énorme, vaste, complexe, et moi j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, d'un coup je prenais la mesure de la ridicule de ma personne, et il faut quand même se coltiner les choses, la vie, la création. Donc je mettais ça en rapport. Le journal, c'était un petit peu la caricature du monde qui m'entourait, c'est un résumé.
Oui, mais cette perception, à 18 ans, tu l'avais déjà, je veux dire, la caricature du monde à travers le journal, la perception de que le monde ne va pas bien. Est-ce que dans ton entourage, parce que j'imagine vraiment, peut-être que je suis pessimiste, non, j'imagine mal comment une personne de 18 ans, à notre époque, je parle de la majorité, et se préoccupe pour la marche du monde. Actuellement, ils sont plutôt dans la consommation, ils sont plutôt dans les faire paraître. Et toi?
T'es pessimiste, Rosendo.
Oui. Merci, Boris. Oui, oui. Et justement, je savais que Boris Oléo allait profiter de l'occasion. Et tu peux aussi, vas-y, Boris, dis-moi pourquoi je suis pessimiste.
Parce que je suis convaincu que, à tous âges et en tout temps, les humains sont sensibles. Et même s'il y a des dimensions consommatrices, il reste des dimensions sensibles. Et bien justement, tu avais commencé à parler de la pub, et j'avais regardé sur ton site, Céline, ces espèces de détournements. Et voilà, je me demandais justement à quelle époque t'avais fait ça, qu'est-ce que c'était devenu, est-ce que ça s'intégrait aussi dans je sais pas quoi, moi, des liens avec des mouvements anti-pub, les casseurs de pub ou autre, est-ce que...
Non.
C'était vraiment une pratique personnelle, entre guillemets, d'art plastique.
Ouais. Bah, en fait, les pubs, c'est arrivé, donc ça date de 99. Bon, moi, j'avais 18 ans il y a 20 ans, donc c'est pas représentatif des gens de 18 ans aujourd'hui.
Ah, tu vois, Boris.
Je pense qu'à chaque époque, il y a, bon là, ce serait trop long de rentrer là-dedans, mais je pense que chaque époque a sa
fièvre.
Sa fièvre, voilà. Moi, les publicités, c'est venu parce que j'avais pas les moyens de m'acheter des supports et je voulais faire quelque chose de grand. Et bon, la toile, les châssis, c'est très cher. Donc j'allais voir les pharmaciens et tous ceux qui pouvaient me donner leurs panneaux publicitaires. Puis ensuite j'allais acheter ce qu'il fallait pour fabriquer le châssis et rendre quand même le panneau rigide, parce que c'est les têtes de gondole, c'est du papier, hein, un coup de vent, c'est rien du tout. Il vaut mieux un bon canson. Mais et du coup la publicité m'offrait du pain béni, parce que c'était pas une page blanche, l'absurdité des slogans publicitaires en vide. Je me rappelle d'un panneau que c'était bien tout de suite. Donc c'était des pilules pour je sais pas quoi, et le slogan c'était bien tout de suite. Alors on voyait une femme bronzée, quel genre de pilule, ou même rien ne nous rend bien tout de suite. Alors c'était trop gros, bon bah voilà.
Bon, et puisque tu as déjà entamé la question plastique sur le travail d'un support déjà fait, soit parler de ton détournement pour le fait de travailler par-dessus, et c'est une démarche plastique qui, il me semble, se rapproche beaucoup des palimpsestes, non? C'est-à-dire retravailler sur des manuscrits religieux, mais par un sens plus élargi, retravailler sur un support imprimé ou un support qui est déjà peint ou refait par quelqu'un d'autre et que tu profites plutôt de cette texture. Alors, je me demande si ce n'est pas plutôt une chance pour toi, pour ton évolution, Céline, l'effet d'avoir eu ce manque de papier de bonne qualité, d'aller demander aux pharmaciens un support et du coup, être en contact avec ce monde sur lequel tu voulais faire partie ou faire une action, justement, pas dans le cadre académique, mais plutôt dans le cadre tout à fait de l'action, en travaillant par palimpseste, une œuvre par-dessus. Donc, bon, c'était un commentaire, non? Mais autre chose que je voulais rajouter aussi pour que Léo ou Boris puissent aussi rebondir, c'est que il me semble que déjà tu lisais assez. Et je pense que Cioran, par exemple, que c'est une de tes lectures favorites de Cioran, quand même, c'est, en étant jeune, c'est pas quand même quelque chose de facile. Et je pense aussi que cette lecture et les rencontres, tu es quand même été prédisposé à avoir les chemins que tu as pris. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Oui, c'est, alors, c'est tout, on sait jamais si on se dirige vers des lectures, si c'est nous qui trouvons les lectures ou si c'est les lectures qui nous trouvent. Combien de fois je me suis retrouvée à la Fnac ou dans des endroits pleins de livres et je trouvais le livre, évidemment, qu'il fallait que je lise. Bon, je crois que beaucoup de gens ont ressenti ça, donc on sait pas si ce qui se passe
te tombe dans les mains.
Voilà, le livre me tombe dans les mains et c'est vrai que bon, Cioran, les auteurs de l'enfer me parle assez bien et je suis assez d'accord avec eux qu'on fait tout dans la difficulté et la méconnaissance des choses, et dès l'instant où on connaît et qu'on maîtrise, on peut plus faire d'art.
On vide un café, on en touille un autre. Le temps passe de cafetière en cafetière. Marins affamés, on ronge la côte. On mange la soucoupe et la petite cuillère. La petite écuillère, d'ailleurs, viendra pas. C'est con de s'y faire, attendre, c'est bon. L'horloge s'en fout, elle est déjà là. La tante connaît jamais de repos. Ça te bat le cœur, te tient en éveil. Douillé de mon spleen, remouille café. Ce soir j'ai du trop sucré ma cervelle. Le jour tombe vite, l'aiguille s'y fait. J'attendrai l'express de Bordeaux. Vers 15 espresso, café et tilleul. Un dossier d'osier dressé dans mon dos. Et sur les genoux, ma peau de glaïeul. J'attendrai ton train en croquant des nems. Le temps qu'il faudra sous la Montparnasse. Si tu le prends pas, j'attendrai quand même. M'attends les talons des filles qui passent. Rien ne me sera bien insupportable. J'attendrai 20 ans, regardant mourir 10 générations de piaf sous ma table. Et mon pot de fleurs 20 fois refleurir. Plus les siècles passent, plus on se résigne à sentir sa chaise pousser dans ses reins. Peut-être mon corps aura pris racine quand me parviendra la chanson d'un train. Je n'aurais pas vu crever les secondes. Je serais tilleul sous la Montparnasse, souriant de voir blotti sous mon ombre mes feuilles chutant au fond de ta tasse.
Voilà, donc on vient d'écouter Les Tilleuls d'Alain Leprest. Et c'est très beau, vous trouvez pas?
On n'a pas écouté, on a parlé.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, mais j'écoutais quand même. Hein. Et surtout que j'ai saisi un mot, une phrase d'Alain Leprest qui se colle bien à ta conversation, à notre conversation. C'était les talons des filles qui passent. Hein. Et je t'imaginais en train de passer dans cette banlieue parisienne à tout enfant, en train de demander aux pharmaciens des supports publicitaires pour que tu puisses travailler dessus. Non, en plus, Alain Leprest qui a beaucoup marqué plein de générations, mais il n'est pas assez diffusé comme il mérite.
Mais c'est ça, mais je crois qu'Alain Lepresse fait partie des artistes qui n'avaient pas envie d'être trop dans la lumière parce que l'intérêt n'est pas là. Et d'ailleurs, il est revendiqué de prendre 5 années pour faire un disque. Et il disait qu'il aimait prendre son temps, il aimait faire des concerts d'abord, que pour lui, la musique, elle vivait sur la scène et avec le public, et qu'il voulait prendre son temps avant de tuer une chanson sur un disque. Parce qu'une fois qu'elle est sur le disque, qu'elle est réglée, elle est finie, effectivement. Et j'aime énormément ce morceau, parce que je trouve que si j'avais dû écrire quelque chose sur le temps, j'aurais aimé écrire cette chanson. C'est la plus belle chanson sur le temps que je connaisse. Et vraiment, moi, je sens la gare, je sens les pigeons, je sens la chaise en osier dans le dos. Enfin, tout y est, c'est un moment de grâce.
Léo. Enfin, j'ai l'impression que t'es une artiste du fond plutôt qu'une artiste de la forme. J'ai l'impression que j'entendais la musique qu'on vient d'écouter et je me disais c'est une chanson avec une profondeur, mais qui est pas forcément, qui a pas une belle légèreté comme peut avoir certaines musiques plus modernes, tu vois. Et je regardais ta BD aussi, j'ai l'impression que c'est aussi le cas. C'est-à-dire que tu prends un sujet et tu dessines dessus. Tu prends pas le prétexte de trouver n'importe quel scénario pour faire un truc joli, quoi. Est-ce que j'ai bon ou?
Il me semble que les artistes, quels qu'ils soient, on est tout le temps pris à défaut. Enfin, on est confronté entre la forme et le fond, et c'est une vraie bagarre parce que dès qu'on arrive à avoir une forme et que les choses deviennent faciles, ça perd son intérêt pour nous. Donc tout ce qui va donner, je veux dire, une bande dessinée, en l'occurrence, ça prend 1 an, 2 ans de travail, peut-être plus. Il faut vraiment que l'énergie, l'envie, l'émerveillement soit au rendez-vous tous les jours. On peut pas passer laborieusement 2 ans à gratter un truc en sachant à quoi ça va ressembler à la fin, sinon c'est à mourir d'ennui. Et le fond, le sens fait que chaque fois, ça refleurit, on se dit ah oui, j'ai pas vu ça comme ça, j'ai pas fait ça encore, j'avais pas vu.
Boris, t'es pas une artiste tranquille.
Non.
ça va pas te faire d'être tranquille, je crois.
Et je vais rattraper donc mon erreur que j'avais commis tout à l'heure au sujet de ta 3e BD, mais en fait c'est ta 5e, donc je vais énumérer. Et la toute première, c'était un binôme avec Edmond Baudouin. Ensuite, tu as eu, qui s'appelait Les yeux dans les murs, dans le mur. Ensuite, tu as eu La patience du grand singe.
Oui.
Après, Ceste, Tangente. Et maintenant, c'est Un héros de notre temps. C'est bien ça. Oui. Il faut rajouter aussi une pièce de théâtre que tu as fait qui s'appelle Un palais pour les Canaries.
C'est ça.
Voilà. Donc, parmi cette production que tu as faite, et on a choisi, ou tu m'as aidé à choisir une de tes productions, que c'est au fait une planche, une BD de 4 planches qui s'appelle Histoire de la voisine.
Le rêve de la voisine.
Le rêve de la voisine. Ah, je n'arrête pas de faire des erreurs, merci de me
corriger. C'est bien comme ça, on est dans le sujet, dans le vif.
Les rêves de la voisine. Donc, et déjà, Léo m'a fait la grande entrée de ton style, non? Parce que lui, Léo parle de l'importance que tu donnes au mot, Boris aussi, à l'histoire, tu es jamais tranquille. Et ton dessin, il ne cherche pas les jolis, il ne cherche pas les précieux. Plutôt, à mon avis, il est clair, direct, noir et blanc. Et je pense que ton dessin se soumet au mot, se soumet à l'histoire, elle va la servir. À tel point que parfois je me disais, je sais pas si je te l'ai dit avant, mais parfois je me disais que Céline, tu devais écrire aussi, en plus de tes BD bien sûr, sans dessin, ou avec très peu de dessin, parce que tes mots, tes dialogues, tes silences sont tellement forts que eux seuls peuvent comporter l'histoire sans l'image qui donne à la BD. Qu'est-ce que tu en penses de ces commentaires?
Pour moi, l'écriture, c'est là vraiment le... Ce qui me laisse pas tranquille, je dirais, ce serait vraiment l'écriture, parce que j'ai besoin de formuler ce que je fais, parce que, par exemple, aujourd'hui, parler de ce que je fais, c'est difficile. Quand on me demande « Ah, tu fais une bande dessinée, ça parle de quoi ?» Je suis incapable de le résumer. Donc chaque fois, je me dis « Tiens, je vais essayer d'écrire. » Et puis pourquoi je fais comme ci, comme ça ? Je vais essayer de l'écrire. Et je suis tout le temps entre l'ennui et le besoin d'écrire. Alors une fois que je l'ai écrit, ça m'ennuie, mais si je l'écris pas, j'ai besoin de l'écrire, et donc c'est très compliqué, mais c'est indispensable, je crois, parce que c'est un recul par rapport au dessin.
Oui, puisque tu es un peu ennuyé dans l'inconfort de qu'on te demande de parler de ta BD, bon, je vais te faire un échange de rôle. C'est-à-dire que je vais oser décrire les images de cette BD, donc je vais en parler, le rêve de la voisine. Et après, je pense que tu réagis mieux en ajoutant des commentaires, en rectifiant les tirs. Donc, il s'agit d'une bande dessinée en 4 pages. Qui a très très peu de mots, mais les mots sont suspendus à mon avis. Il y a les textes, il est imagé et il est traduit plutôt par la force des images. Donc dans la première page, on voit un personnage masculin qui commence à s'effriter, mais petit à petit, on glisse vers une foule et avec une case, on peut imaginer dans un film un changement de plan. C'est-à-dire que parfois un peu incongru ou décousu, mais tout de suite on comprend que c'est par la présence d'une dame qui rêve ou qui dort que toutes ces images-là d'un personnage masculin, et c'est parti de son rêve. Et du coup, on voit que ce personnage, il est situé à la campagne et commence à être peuplé dans cette espèce de paysage bucolique et peuplé par des filles nues. La voisine, donc, elle n'est pas nue. Et petit à petit, il y a la présence des gros plans sur des fleurs, des feuilles, de la campagne. Donc, pour revenir à la fin sur un gros plan sur la nature. Il n'y a plus de personnages, mais on comprend que ça a été un parcours des rêves, mais pas dans le sens des rêves féeriques, mais plutôt un rêve dans le sens le plus psychanalytique du terme. Voilà, maintenant c'est à toi, Céline.
Ouais. Alors c'était ces 4 pages, je les aime bien parce que je trouve que j'ai réussi à dire ce que je voulais à peu près. C'est un rêve de communion. Donc en fait, on voit donc c'est une voisine avec un foulard vraiment à poids, vraiment la petite voisine. Bon, déjà le rêve de la voisine c'est tout le monde et c'est personne quoi. La voisine, c'est le personnage par excellence dont tout le monde se fout. Le rêve de la voisine, ça intéresse personne quoi. Donc elle est anonyme, elle est personne et on la voit au cœur d'une manifestation qu'on sent douloureuse quoi, comme si un jeune homme était mort et que des gens arrivaient par milliers pour dénoncer une violence, dénoncer quelque chose et elle est au milieu. Elle dort et d'un seul coup tous ces personnages disparaissent, la foule disparaît, elle est seule dans les bois endormie. Et là, d'un seul coup, les corps reviennent, mais nus. Et la l'envahissent, la recouvrent. Et c'est encore une communion. Ça commence par une communion de foule, après une communion de corps nus. Et elle se retrouve seule dans une nature foisonnante, des feuilles, des... Et là, c'est la désorientation. Et donc, le texte dit simplement, c'est quelle couleur 10 ? C'est quelle couleur 10 ? Voilà, j'ai voulu exprimer la désorientation. Elle est dans une jungle à se demander quelle couleur est 10 ? Et là...
Grande question.
Est-ce qu'on peut imaginer une minute que la voisine puisse rêver de choses pareilles ? Et pourtant...
Bien, donc je continue avec ces portraits qu'on fait de Céline Wagner. Et en citant un autre dessinateur, et c'est un illustrateur au fait d'origine russe, et un illustrateur qui s'appelle Ivan Yakovlevich Bilbin, 19e siècle, et qui a eu l'influence par ses illustrations, pardon, je le montre aussi à Boris et à Léo, qui a eu l'influence des dessinateurs japonais et des autres dessinateurs européens aussi. Et même, je dirais, même s'il n'est pas cité dans les textes que je recherchais sur lui, il y a aussi un peu Klimt là-dedans, cet aspect un peu décoratif et foisonnant, et avec un dessin pur et très, très net, même on dirait une espèce de parchemin du Moyen-Âge, parce qu'il y a des personnages qui se mêlent entre Moyen-Âge, 18e et 19e. Et, mais ce qui m'a surpris dans ces références, c'était Hokusai. Hokusai, c'est lui qui a fait le peintre japonais qui a fait le mont Fuji derrière une vague. Et après, quand je revis ces illustrations, je me suis dit, mais effectivement, Hokusai ne peut être que là. Et si on se rappelle de Van Gogh et tous les expressionnistes du 18e ont pris aussi des références sur Hokusai. Et je parle de Hokusai parce que, en général, les jeunes mangaka, c'est-à-dire les dessinateurs de manga, et parfois, ils ignorent que le mot manga en japonais veut dire croquis. C'est-à-dire que ces dessinateurs faisaient beaucoup de croquis, et en hommage ou en référence à ces croquis, et on a dit manga, et après on a rajouté mangaka. Donc, je rétablis cette référence de Hokusai parce que moi aussi je l'ai repris en tableau. Mais revenons à toi, Céline. Comment ça s'est fait que cette référence est arrivée à toi? Je parle bien sûr de Ivan Djakolevitch Bilbin.
Oui, ça c'est simple. C'est la dernière bande dessinée sur laquelle j'ai travaillé, c'est d'après un roman russe du 19e siècle. Et voilà, mes recherches m'ont amené à Ivan Bilibin. Je cherchais un moyen de sceller un petit peu de la bande dessinée avec un clin d'œil à l'époque de l'histoire. Et donc je me suis inspirée de Ivan Bilibin pour l'entrée des chapitres. J'ai fait des frises autour qui rappellent les illustrations d'Ivan Bilibin. Et son univers, je trouve ça, c'est magnifique, quoi. Ça résonne avec la bande dessinée que j'étais en train de faire. La nature, les chevaliers. Bon, c'est vraiment de l'illustration. Je sais que nous en France, enfin, dans l'art, peut-être que ça disparaîtra, mais on a un certain mépris pour la figuration. Et moi, de plus en plus, je suis de ce côté-là, de la figuration et de l'illustration. Et Ivan Bilibin, sur ce dessin, bon, il y en a beaucoup, hein, des très bien. Là, ça résume bien, je trouve, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées, une narration. C'est un seul dessin divisé en deux. On voit une foule de personnages en haut qui regardent l'horizon, avec un personnage féminin qui les guide, qui dirige leur regard, qui leur montre quelque chose. Et au loin, la mer, des oiseaux. Enfin, je veux dire, il y a une scène, on pourrait en faire trois cases de bande dessinée. Là, dans le même dessin, il se passe des tas de choses. Et c'est vrai que ça évoque aussi Klimt, les personnages, on pourrait même dire Bruegel avec les personnages grimaçants, il peint aussi une société bourgeoise, avec toutes les grimaces que ça comporte.
Je suis malinquin. Ils t'ont dit que tu es embêté. Mon papa était un djoula, mais nous là, nous sommes ivoiriens. Nous sommes des malinquins. Nous sommes des sacans. Nous sommes des coups. Nous sommes des sénouveaux. Nous sommes tous ivoiriens. Oh,
je suis musulman. Il t'en dit que tu es un chrétien. Nos ancêtres étaient animistes, mais nous là, nous sommes africains. On n'oubliera pas l'Empire du Ghana. Nos parents parlent encore des cavaliers Mossi, sans oublier le royaume Ashanti. Les griots chanteront toujours les bonnes demandes. On respecte encore les boucliers zoulous, le roi forgeron du Congo. Tout le monde connaît le royaume des Nubies, sans oublier l'Empire d'Éthiopie.
Voilà, on vient d'entendre Tikenja Fakoli, l'Africain. Et ouais, cette chanson, elle fait partie des chansons qui me mettent la larme à l'œil quand je suis en voiture. J'ai eu la chance d'aller au Bénin en 97. Et bon, moi, je suis de la région parisienne, donc bien sûr, j'ai grandi en prenant le train à Gare du Nord, un quai encombré d'Africains et de gens du monde entier, beaucoup d'Africains. Et voilà, sans me dire rien de particulier. Et quand je suis revenue du Bénin, ces Africains, je les ai vraiment vus autrement. Et ouais, ça m'a vraiment... Je savais pas si c'était triste ou gay, je savais pas, mais d'un seul coup, ça changeait tout. Et l'Africain à Paris, voilà, Tikenja, il le chante très bien. Je suis un Africain à Paris, je trouve que rien que d'en parler, ça me... Voilà.
Puisque tu parles de cette époque-là, que tu prenais les trains, est-ce qu'à 11 ans, 12 ans, tu prenais déjà les trains toute seule?
12 ans, oui.
Mm-hmm.
Donc, voilà.
D'accord.
En arrivant, ouais, au collège.
Oui, donc, je voulais revenir à cet âge-là parce que c'est les 11 et 12 premières années que Nathalie Sarraute, un livre que tu as choisi, qui s'appelle Mon enfance, que tu as choisi pour nous faire un petit commentaire. Et je fais la remarque aussi qu'avec Nathalie Sarraute, on retrouve les racines russes.
Oui, c'est vrai.
C'est une.
Elle est née en Russie.
Oui. Mm. Alors, tu as cherché la cohérence dans tes choix, non?
Non, pas du tout.
Non, c'est purement
ouais, mais comme aléatoire. On disait tout à l'heure, oui. On ne sait pas si c'est les choses qui nous trouvent ou si c'est nous qui trouvons les choses. Bah, sûrement d'être dans un bain russe depuis 2 ans, inconsciemment.
Alors, Nathalie Sarraute a écrit ses livres en jouant avec une double voix, non, en parlant, en faisant parler la jeune fille, tu vas écrire ceci, non, tu vas pas oser, mais je l'écris quand même, non. Et alors, comment tu l'as découvert, ces livres de Nathalie Sarraute?
Alors, Nathalie Sarraute, je l'ai découvert par l'intermédiaire de l'abécédaire de Gilles Deleuze. Ça doit durer 2 heures et il est interviewé par une ancienne élève à lui qui s'appelle Claire Parnet. Et à chaque, je crois que Gilles Deleuze voulait absolument pas être interviewé, faire de télévision, peut-être pour pas faire mourir une espèce de réflexion dans un enregistrement aussi. Et la seule personne qui a le droit de l'interviewer, c'est Claire Parnet. Et donc c'est un abécédaire, voilà, elle lui dit A comme animaux, et puis voilà, il pense pendant 2 minutes, et il parle de ce livre de Nathalie Sarraute. Et bon, moi je suis très sensible à la voix de Gilles Deleuze, j'ai pas eu la chance de faire de la philosophie, donc...
Mais tu es très proche, hein. Souvent je vois dans tes lectures ou dans tes élaborations... des BD qu'il y a quand même une réflexion philosophique sur le temps, sur l'existence, sur l'être, non?
Bah, je trouve que les philosophes, c'est les artistes suprêmes, quoi. Parce que nous, on fait des choses, on sait pas en parler, et puis les philosophes, ils parlent des artistes en disant mieux qu'eux-mêmes ce qu'ils font. Et je suis assez fascinée par cette clairvoyance.
Et à propos des philosophes, là, je fais une petite parenthèse parce que les rendez-vous mensuels qui nous fait Boris Pratt à la médiathèque de Negrepelisse, lui, il anime bien sûr, mais dans chaque réunion, je peux constater qu'il y a une intervention très libre sur des thèmes qui peuvent aller de la philosophie ou même à la spéculation sur le subconscient, sur les rêves, sur la méditation. Et donc, Boris, tu avais une nouvelle à nous annoncer pour le jeudi 3 avril, n'est-ce pas?
Alors, on va profiter de l'émission pour annoncer effectivement la prochaine place de la Palabre à la médiathèque de Negrepelisse. Donc, jeudi 3 avril à 20h30. On va continuer à décliner la série Je suis. Je suis mes émotions, je suis ce que je crée, je suis mes rêves la dernière fois. Et on va prolonger avec Je suis mon corps. En essayant de tourner autour du pot de notre rapport au corps aujourd'hui, alors à la fois le côté un peu comment on en prend soin ou pas, je pensais aussi de ce qui se passe autour du sport aujourd'hui fait un bon angle d'attaque par rapport au corps, et puis peut-être d'autres angles qui viendront par les personnes présentes. Donc tout le monde est le bienvenu et tout le monde a la parole effectivement dans ce temps-là où je cherche à ce que chacun puisse élaborer quelques propos sur le sujet et écouter ce que disent les autres aussi.
Parfois, je vois que dans tes réunions, il y a un invité, pas nécessairement un spécialiste ou quelqu'un qui va proclamer une vérité, mais quelqu'un qui va faire les liens ou qui va lancer le sujet. Est-ce que cette fois-ci, tu as un invité?
J'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est une activité bénévole et ça prend déjà un peu de temps et j'ai pas toujours le temps de trouver des bonnes connexions, mais les bonnes idées sont les bienvenues si t'as l'idée de quelqu'un.
Par exemple, je pense à Céline Wagner,
qui dessine des corps.
Qui dessine des corps, ouais. Oui, lui, justement.
Certes.
Et je trouvais peut-être une liaison, bon, je force la coïncidence parce que Céline nous a présenté une bande dessinée de 4 pages qui s'appelle Les rêves de la voisine, donc c'était ton ancien sujet.
Le sujet d'avant.
Et le sujet qui vient, c'est jeudi 3 avril, c'est les rapports au corps. Mm-hmm. Et comme dans les rêves de la voisine, il y avait beaucoup de corps nus autour des personnages. Donc, bon, je force la coïncidence pour voir si Céline Wagner peut être présente à cette discussion.
Ouais. Elle est bienvenue pour parler, effectivement, puisque dans son dessin, c'est vrai que j'ai remarqué que les corps étaient présents. Mmh. Donc, parler de toi, de comment tu...
De la voisine.
Voilà.
Volontiers.
Moi, j'ai une question plus terre à terre. Dans le monde de la littérature, enfin de la BD et de la littérature en général, qui est un peu, j'ai l'impression, en perte de vitesse, est-ce que c'est facile de vivre de la BD? Est-ce que c'est possible si on n'est pas un grand ponte de la BD ultra connu de par le monde?
Alors là, si je pouvais répondre, je pense que j'en vivrais allègrement de la bande dessinée. Mais non, je crois que... Encore une fois, il y a pas de recette, parce que je pense que ceux qui en vivent pensaient peut-être pas en vivre un an avant d'éditer, et ceux qui aimeraient en vivre rament depuis 15 ans sans en vivre, et ça, je crois que dans tous les arts. Ouais. Non, moi là-dessus, je gagner de l'argent, c'est un truc que je fais pas bien. Faudrait que je fasse une formation, je sais pas.
Pour l'instant.
Voilà. Ouais.
Je saute sur l'occasion que Léo propose par rapport à les rapports de vivre de la bande dessinée ou de la peinture à tout court. Parce que je me souviens, en étant en Chine, je rencontrais un peintre catalan qui m'a amené, après, quand je suis venu en Europe, il m'a présenté son père qui était un peintre aussi. Mais ce peintre-là était un hyper réaliste qui passait des mois et des mois pour finir un tableau. Et alors, moi, je lui demande, est-ce que la même question que Léo vient de te poser, non, est-ce que tu arrives à vivre de la peinture? Alors il m'a donné une réponse qui m'a resté gravée, non? Il m'a dit, mais tu vois, je passe des mois à faire un tableau, un peu comme Vermeer, un peu comme Diala Leprest, qui n'a pas envie que son œuvre puisse mourir, parce que du moment qu'on l'a fini, il meurt, parce que bon, c'est achevé, il faut que tu passes à autre chose. Donc il m'a dit, non, je ne vis pas de la peinture comme une pute. Je ne suis pas un macro qui vit de la peinture. Je vis pour la peinture. Donc, sa réponse était assez évidente, non, pour montrer les rapports qu'on a avec notre art. Et je me dis, mais il a raison. Depuis le temps qu'on galère, et même si on n'arrive pas à vivre, on continue. C'est pas du masochisme, je pense que c'est de l'amour pur.
Ah oui, bah je crois qu'on pourrait pas vivre sans. Alors après concrètement quand quelqu'un de 15 ans nous dit je veux faire de la peinture, comment je fais, j'ai fait une école, j'ai pas fait d'école, quand on voit le chemin que ça représente, oui, ça peut être une bonne réponse, vie pour la peinture,
et par aussi, non, plutôt que deux, c'est oui. Par la peinture,
par la peinture, oui, mais ça implique une réflexion philosophique, c'est-à-dire que la peinture ce n'est qu'un moyen d'y arriver. À ce propos, je me souviens d'une autre réponse, mais cette fois-ci j'étais pas présent, c'était un prix Nobel de littérature, Gabriel García Márquez. On lui a posé souvent la question, non, pourquoi vous écrivez? Alors il a dit, mais souvent, on répond, on écrit pour draguer les filles, on écrit pour être connu, on écrit pour être plus aimé pour les amis, mais moi, j'ai envie de donner une réponse plus terre-à-terre, comme Léo vient de signaler, non? Moi, j'écris pour ne pas être constipé.
Là, ça sorte, quoi.
Bien. Le sens de la formule.
Oui, tu le gardes, celui-là.
Ouais.
Donc, on arrive petit à petit à ton actualité, c'est-à-dire la production de ta dernière œuvre, c'est-à-dire Un héros de notre temps, que je te laisse le soin de le présenter, Céline.
Oui, Un héros de notre temps, c'est d'après le roman de Michel Lermontov. Voilà, c'est un roman de la première partie du 19e, russe. Et c'est un roman d'aventure. Ce qui est, il y a beaucoup de choses, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais ce qui m'a semblé intéressant, entre autres, c'est qu'à l'époque, le russe ne permettait pas, comme la littérature française, de faire, par exemple, des voix off, c'est-à-dire de parler d'un personnage et de ce qu'il pense en même temps. Il y avait l'écriture. C'est à l'époque, la littérature russe était très empreinte de religion, c'était très orthodoxe, très moraliste, et les écrivains, pour se frayer un chemin, pour essayer de dire un petit peu le fond de leur pensée, devaient user de maintes stratèges, et ils étaient souvent très attachés à la littérature française, qui était plus émancipée de la religion. Enfin, toujours Lermontov, comme il pouvait pas faire parler son personnage de l'intérieur, le langage ne lui permettait pas, il a imaginé trois personnages différents qui parleraient de son héros. Une manière d'appréhender le héros sous des angles différents. Donc, le livre est en cinq chapitres. Le premier chapitre commence par un anonyme, un voyageur anonyme, qui a eu entre ses mains le manuscrit, les carnets de voyage du héros, Petchorin, le héros de notre temps. On entend parler pour la première fois de Petchorin à travers ce voyageur anonyme. Dans le deuxième chapitre, c'est quelqu'un qui l'a connu de plus près, puisque c'est l'époque des officiers qui étaient envoyés en exil. Donc Petchorin faisait partie d'un corps de l'armée russe. Il a eu des collègues de front. Donc on entend parler ce collègue. Troisième chapitre, c'est Petchorin qui parle, lui, de sa vision du monde. Et c'est quelqu'un de très impétueux, de très cynique, de très... c'est un peu le portrait d'une jeunesse en crise aussi à son temps. Bah voilà, c'est chaque époque a sa fièvre, on disait tout à l'heure. Bah, Petchorin, c'est un jeune désabusé, emprunt à l'ennui, révolté. Et voilà, donc on a comme ça une palette de portraits du même personnage, et je trouvais que c'était toujours aussi original, même aujourd'hui.
Oh, excusez-moi, on va reprendre la suite de la présentation, parce qu'on a une dernière chanson que tu as choisie, que j'aimerais bien qu'on puisse l'entendre. Aurélien, s'il te plaît.
We were born so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. Seem to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
You are my sister, and I love you.
I love you.
Anthony and the Johnsons, You Are My Sisters. Et c'est, ouais, c'est Anthony, c'est la voix de l'au-delà. C'est, il y a des gens comme ça, ils nous font imaginer qu'il y a un monde ailleurs et auquel nous on n'accède pas, mais on, avec eux, on sait qu'il existe.
Merci beaucoup, Céline. Nous sommes toujours avec Céline Wagner, artiste plasticienne, auteur BD. Et qui maintenant, Céline, je vais te livrer à ces messieurs, Léo et Boris, qui vont te questionner à propos de ta, de ton dernier album qui va sortir en juin.
Et moi, ce qui m'a frappé au premier abord, c'est la ressemblance de ton dessin avec David B. Donc, j'ai parlé en coulisses. Qui travaille comme toi avec des gros aplats, des contrastes vraiment forts. Lui, il y a de la couleur, mais c'est toujours très très contrasté. Il y a toujours des lignes très droites dans les ombres. Il n'y a pas de dégradé comme toi. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Je voulais savoir est-ce qui t'a inspiré ou pas du tout. Et
inspiré.
C'est un hasard.
Bon, de toute façon, je crois qu'il y a des voix, il y a des genres. Oui, peut-être que ça se rapproche plus de David B que de, Gossens ou je ne sais qui. voilà. Bon, moi, j'essaye de mettre de la matière, des dégradés, ouais. Tout ça. David B. Puis David B. Il y a un univers aussi onirique, très.
Oui, c'est vrai.
Des arabesques, des. Bon, c'est quelque chose que j'aime aussi, le domaine du rêve. Oui, c'est possible.
Oui, je parlais juste de l'aspect technique du dessin, pas du.
Non, techniquement, je peux pas dire. Moi, je parlais plutôt de Charles Burns tout à l'heure.
Ouais.
J'aime beaucoup l'effet un peu magique. On a l'impression que rien ne dépasse là, le noir est noir, la ligne est ligne. C'est quelque chose que j'aime. Alors David B est là-dedans, Charles Burns est là-dedans, il y en a d'autres. Et alors moi, je suis déchirée entre l'envie de matière et l'envie d'aplat noir.
Donc... Oui, parce que t'as mêlé les deux dans la BD là, enfin graphiquement. Il y a effectivement ça, et puis des crayonnés. Hein, tu me racontais que tu utilisais un Bic blanc. Ouais, c'est rigolo, je savais même pas que ça existait.
Ouais.
Pour rééclaircir des zones. Bref, il y a ces deux, quoi.
Ouais.
Dans la BD, c'est assez original. Enfin, c'est pas le but, c'est remarquable.
J'aime les deux. J'aime les deux, et ça m'embêtait de choisir, parce qu'encore une fois, je m'embarque pour 150 pages, donc j'ai quand même envie de que ça colle avec mon désir, quoi. Et voilà, donc j'ai imaginé, je vais faire les paysages, la nature avec de la matière, et les personnages, puisqu'ils ont des costumes, enfin des uniformes, tout ça, c'est carré. Je vais faire des aplats pour les personnages, et je vais faire de la matière pour le paysage. Pour cet album-là, ce sera comme ça. Pour les suivants, on verra.
Et les outils que tu utilises, est-ce que tu utilises ordinateur ou est-ce que tu fais tout? Donc,
j'utilise tout ce qui peut servir à ma cause, donc l'ordinateur, le feutre. En fait, toute la recherche documentaire se fait beaucoup sur ordinateur. Les croquis, des croquis succincts, mais qui pour des dessins vraiment techniques, comme des chevaux avec une calèche qui grimpe une montagne, je vais faire les croquis avec la tablette graphique, comme ça, si je me trompe, j'abîme pas le dessin. Si c'est trop petit, je l'agrandis. Si c'est trop grand, je le rétrécis. Et j'imprime un croquis succinct, très clair. Et toute la création, toute la composition se fait à l'encre sur la table à dessin, parce que je suis attachée à ma table à dessin.
D'accord.
Céline, je t'invite à pouvoir donner à nos auditeurs tes contacts, ton site, les dates que tu fais aussi, parce que tu fais des ateliers BD dans la région,
et la date de sortie de la BD aussi.
Oui.
Ouais. Alors, le site, c'est facile, c'est CélineWagner.com. J'ai payé le luxe de m'offrir un nom de domaine. Donc là, il y a tout. Je crois qu'on peut écrire, des messages.
Il y a assez labyrinthique, ton site. C'est agréable. C'est déroutant, mais ensuite agréable.
Ouais. Bon, il y a un truc contact. Donc là, c'est simple. Et ça, oui, c'est la première page, c'est quelqu'un qui dort. Voilà. Je trouve qu'à notre époque, c'est important. Et le bouquin, le héros de notre temps, sort en juin, début juin, aux éditions Actes Sud de l'an 2. Et pour les ateliers, là en ce moment, je fais un atelier avec les enfants à Mirabel, à l'école de Mirabel, voilà. Donc c'est que pour les enfants, c'est pas ouvert au public.
Et probablement on va te retrouver à la place de la Palabre.
Oui, volontiers, le jeudi 3 avril,
le jeudi 3 avril
à 20h30.
Bien, je vous remercie à tous d'être là. Merci Céline.
Bah, merci à vous.
Boris et Léon.
Merci Rosendo.
Je vous dis à bientôt.
À bientôt.
C'était les rendez-vous de Rosendo. Cette semaine avec Céline Wagner. Vous pouvez retrouver le podcast sur cfmradio.fr. Les rendez-vous de Rosendo, c'est tous les dimanches à 13h. Rediffusion le mardi à 23h.